Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je rencontre une figure du design français, Constance Guisset. Ou plutôt, c'est elle qui me reçoit dans son atelier. Créatrice d'objets design et du quotidien, comme la cultissime suspension Vertigo et tant d'autres dont nous allons reparler, Constance est également architecte d'intérieur, scénographe d'expositions, de spectacles ou d'événements, avec en fil rouge son univers entre délicatesse et fantaisie. Son travail joyeux, vaporeux, onirique a été maintes fois récompensé par de nombreux prix. La semaine dernière, elle a même été sacrée parisienne de l'année par le Figaroscope. Tout un programme. Bonjour Constance.
Bonjour Hortense.
Comme je viens de dire, vous avez plusieurs casquettes, dont celle qui fut la première, je crois, d'être designer. Alors si on s'arrête sur cette fonction, designer, c'est un mot qu'on connaît bien, qu'on entend souvent, mais sans forcément en connaître la définition exacte, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce métier de designer ?
Le métier de designer consiste à concevoir des objets. Chaque chose que vous utilisez dans votre vie quotidienne a été conçue, dessinée par quelqu'un. Des ingénieurs dessinent des objets, des artisans font des objets, mais les designers dessinent. Il y a toujours un designer en fait qui a dessiné la poignée de votre frigidaire, la boîte, qui le fauteuil, qui la fourchette, et qui beaucoup plus encore que ça. Le designer, il est même en amont, parfois dans la réflexion sur le concept autour de l'objet. Il peut aussi avoir une influence sur les nouveaux usages. Il réfléchit énormément au service, il réfléchit à la façon dont on va utiliser les choses, à l'ergonomie. Il y a aussi des ergonomes. Mais le designer, c'est un petit peu cet être qui est à cheval entre la conception créative, la transmission avec des ingénieurs, la conception ergonomique, et il réfléchit aussi normalement à évidemment la marque avec laquelle il va travailler et qui va porter l'objet, mais aussi la façon dont l'objet va être transporté, va être démonté, etc. etc. Donc c'est un designer, c'est une personne qui est un peu touche à tout, qui est un peu chef d'orchestre et qui doit faire la synthèse de tout ça pour que l'objet devienne réel.
C'est pas que une dimension créative.
Ah non, pas du tout. La dimension créative représente une part que je qualifierais d'assez faible du travail. J'aime penser que c'est 20% du temps. Je pense que la réalité, c'est que c'est beaucoup moins en termes de temps, mais c'est beaucoup plus en termes d'impact et d'esprit. On passe d'une idée, d'un dessin à peut-être une maquette, un dessin en trois dimensions, une impression 3D, à nouveau des maquettes, des corrections, du travail avec l'éditeur, la réflexion autour de l'objet, des modifications, ensuite un travail avec le fabricant. Et à la fin, on se dit, mais oui, mais là, est-ce que ça passe? Est-ce que ça se transporte? Comment ça se présente, etc., etc. Est-ce que ça rentre dans les coûts? Et donc, à chaque étape de ce travail, pendant ces années qui précèdent la sortie, le projet est mis en danger, est re-questionné. Et même, il m'arrive assez souvent que le projet puisse s'annuler juste avant la sortie. Parfois même, il disparaît après la sortie parce qu'il n'a pas rencontré son public, parce que finalement, il est plus cher, parce que ça ne correspond pas, etc., etc.
Et vous suivez chaque étape ou vous êtes plutôt en amont ?
Alors en fait, je suis en amont, ça c'est sûr, et je suis chaque étape avec plus ou moins de présence ou distance.
En fait, ma question plutôt, c'est est-ce que vous êtes plutôt la partie créative ou la partie logique, raisonnable ou les deux ?
Alors, je suis clairement la partie créative. Je suis quelqu'un d'à la fois assez déraisonnable et assez raisonnable. C'est ça qui est un peu étrange, c'est-à-dire que je peux avoir des envies un peu complètement folles et mon équipe me dit non, Constance, là t'exagères un petit peu, et ils ont tendance à rationaliser mon dessin, mon idée, etc. En revanche, je suis pas forcément toujours raisonnable, mais je suis très pragmatique. C'est-à-dire qu'en résolution technique, ça c'est vraiment ça que j'aime dans mon métier. J'ai toujours fabriqué des choses. Quand j'avais 11 ans, j'ai une machine à bois. J'avais un petit siège entourné. J'ai toujours fabriqué des choses. Mon grand-père était inventeur. Pour moi, c'est quelque chose qui est très naturel. J'ai toujours beaucoup regardé les objets. Si vous m'offrez quelque chose, ben, je vais toujours regarder la façon dont il est fabriqué, je vais me dire, tiens, où est le plan de joint, comment ils ont fait, etc. Et donc, j'ai toujours eu cette curiosité de la fabrication. J'ai fait beaucoup de petites maquettes, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait plein de choses. Et du coup, j'aime bien les résolutions techniques. Vraiment, à un moment donné où j'ai changé de voie, où je suis devenue designer, je me suis demandé si je voulais être artiste ou designer. Et ce qu'il a emporté, c'est vraiment ce plaisir de fabriquer, quoi. Moi, j'aime les usines, j'aime les assemblages. En fait, j'aime bien résoudre des problèmes. J'ai toujours bien aimé les maths et je me dis toujours, on me dit toujours, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, bon, ça, c'est pas possible, on n'arrive pas à le faire comme ça. Et donc là, en fait, plutôt que de me sentir accablée, bon, parfois, évidemment, ça m'arrive hein, d'être déçue, mais j'aime bien, je prends ça comme un challenge, je me dis, attends, on va trouver une solution. C'est quoi le problème, en fait? Et j'aime bien cette idée de remettre à plat les choses et de dire, bon, c'est quoi les données et qu'est-ce qu'on va trouver comme solution? Alors, évidemment, j'ai une équipe hein, qui travaille avec moi.
C'est ce que j'allais vous demander.
Bien
vous
sûr.
Dites souvent « on », vous ouais. êtes nombreuses, nombreux.
On est sept avec des stagiaires qui nous rejoignent. Et c'est vrai que je partage énormément de choses avec eux. Ce sont des personnes qui rendent les choses meilleures et qui suivent aussi beaucoup toutes ces étapes. Et donc moi, je passe ma journée en fait à faire le tour et je regarde chaque chose. Et comme je m'extrais à chaque fois du projet et que je vais dans le projet suivant, bah, du coup, j'ai un œil neuf à chaque fois. Et c'est ce qui permet aussi de garder à la fois le fil de la création et en même temps de garder du recul. Et puis parce que parfois, quand on est pris dans quelque chose, on oublie de regarder ce qu'on est en train de faire.
Vous imaginez d'abord des choses, des meubles, des objets, et ensuite vous prospectez des clients, des marques, ou sont eux qui viennent vous chercher, qui vous passent commande, entre guillemets?
Je dirais un peu les deux. C'est plus des gens qui viennent me voir et qui passent commande. Mais il y a des marques en fait, qui passent. Alors, la commande peut être de différents types. Donc, il y a des commandes extrêmement précises, du style voilà, on veut une lampe en verre au prix de revient de temps et qui rentre dans telle typologie, ça correspond à notre attente dans le catalogue, elle doit faire telle taille, etc. etc. Donc, là, voilà, pouf, là, je suis dans un cadre et puis là, je crée dans ce cadre. Parfois, j'ai au contraire quelqu'un qui me dit bon, bah, proposez-moi ce que vous voulez, en fait, une typologie qui vous intéresse. Donc là, c'est quand même assez libre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le prendre. Parce que c'est des commandes, c'est pas toujours des commandes. C'est des désirs, c'est des annonces de désir de travailler ensemble. Et puis parfois, ben, je dessine des choses libres. Et puis avec des éditeurs que je connais, je leur propose.
Vous êtes en compétition parfois? Il y a différents designers.
Mais tout le temps. Ma vie est une. Il y a des marques.
Une marque demande à plusieurs designers de travailler sur un projet et choisissent le meilleur.
Soit ils choisissent le meilleur, soit ils en choisissent plusieurs parce qu'ils font des collections. Mais je suis évidemment tout le temps en compétition. Enfin, tout le temps, c'est pas vrai parce que parfois je travaille avec des marques avec lesquelles j'ai une affinité particulière où on se connaît bien et du coup ils me disent ah, ce serait bien de faire un projet ensemble. Et là, je me sens moins en compétition, je me sens plus en confiance. Mais je n'ai jamais la garantie que le projet va être pris. Extrêmement rarement, je ne crois pas me souvenir d'un projet où je me suis dit, de toute façon, ils prendront n'importe, enfin, ils prendront tout ce que je vais leur proposer.
Vous n'avez pas un partenariat officiel avec une marque?
Non, j'ai parfois des accords de recherche, en fait, où une marque vient me voir et me dit, ah, j'aimerais qu'on fasse des recherches autour de la lumière, etc. Et donc là, je lance, mais je n'ai jamais la garantie que le truc va aboutir. Pour être honnête, c'est un métier où, c'est un métier qui est dur au sens où il faut être très prêt à perdre tout le projet très vite, quoi.
Perdre, et est-ce qu'on peut vous piquer l'idée et faire quelque chose qui ressemble de
ça
très près?
Ça m'est arrivé aussi.
Et comment vous réagissez dans ces cas-là?
Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de procédurier au sens où les énergies négatives ne m'intéressent pas beaucoup. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune et je l'ai vraiment très mal vécu. J'ai trouvé ça très, très dur à encaisser. Et puis, bon, bah, dans le cadre d'un David contre Goliath, bah, en fait, je ne me suis pas spécialement manifestée. Enfin, je l'ai quand même dit, mais c'est vrai que... Et puis, c'est la complexité de nos métiers, en fait. C'est que bah, vous avez des copies serviles qui sont extrêmement faciles à identifier, etc. Et puis, vous avez des copies inspirées. Et là, allez le dire, quoi. Non, le plus compliqué, je trouve, pour nous, les designers ou architectes d'intérieur, parfois, c'est quand on est parfois mis en compétition, c'est que bah, on voit bien que c'est un peu l'incubateur à idées, quoi. On donne beaucoup de choses et les gens ne perçoivent pas toujours en fait que c'est un travail d'avoir des idées.
Comment vous trouvez les noms des produits? Il y a Cap, Vertigo, Chantilly, ou il y a un gros brainstorm autour de ça ou...
Parfois on se rend compte qu'on nomme toujours de la même façon certains objets parce qu'il doit y avoir des obsessions comme ça. Bah, comme la cape, par exemple, je pense que cape est un nom qu'on a envie d'utiliser tout le temps. J'ai toujours adoré les capes et du coup, c'est vrai que c'est venu très vite. Je dirais qu'il y a eu des périodes en fait pour ces noms. Quand j'étais plus jeune, c'est une amie à moi, une amie qu'on appelle la biche, qui m'aidait à trouver des noms et du coup, on brainstormait. Parfois, elle me suggérait des choses, elle avait des bonnes idées, c'était très amusant. Et puis aujourd'hui, c'est plus à l'agence, on en discute. Il y a Lucie, ma collaboratrice, qui est très forte aussi en nom.
C'est important le nom d'un produit?
Oui, c'est important. Alors, c'est important et en même temps, moi, il y a des moments où, enfin, c'est secondaire, quoi. Le moment où l'éditeur dit, bon, bah là, il va falloir se mettre à trouver un nom. Et en fait, je suis tellement concentrée sur est-ce que ça va tenir, est-ce qu'on va y arriver, est-ce que, du coup, on va voir la micro-vis qui est là. Enfin, je me dis, voilà, le nom, il faut repartir en arrière sur le concept de départ, sur la sensation que ça procure. Et du coup, mettre des mots là-dessus, en fait, c'est pas si facile. Et puis, mettre des mots qui sont un peu, pas que français, mais qui font voyager un petit peu et qui n'enferment pas aussi, parce que ça, c'est parfois les noms enferment. De donner un nom trop figuratif enferme complètement dans l'interprétation. Et ça, c'est aussi un danger, et moi, j'essaie toujours de faire très attention à ça.
Il faut laisser la personne
s'approprier.
S'approprier,
exactement.
Ouais, c'est ça. Pour bien comprendre votre procédé créatif, on pourrait s'appuyer sur l'un de vos gros succès, donc c'est la Vertigo. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire?
Alors, la lampe Vertigo, c'est un des premiers beaux objets que j'ai dessiné en tant que créateur. J'étais à l'école, c'était je pense ma première année quasiment. Et on avait un projet qui était de fabriquer une cabane et donc de concevoir un objet à fabriquer soi-même, une cabane à fabriquer soi-même avec un mode d'emploi. Donc ça c'était ça le sujet. Et j'avais commencé à faire une cabane cabinet de curiosité en me disant que bah, aussi une cabane c'est un endroit où on mettait ses petites choses à soi. Vous voyez mon bureau est un peu un cabinet de curiosité. J'avais tressé des étagères IKEA entre elles. Parce que les étagères IKEA, c'était le produit standard par excellence, qu'elles étaient moins chères que le prix du bois, et que du coup, plutôt que de faire un mode d'emploi où je montre comment on fabrique une étagère, puis comment on l'attache avec la copine, ben là, je me disais, bon, ben voilà, ça, c'est vraiment une idée de mode d'emploi. Et puis, il manquait un toit, et je me suis dit, tiens, tressage, etc. Et je me suis dit, ben, je pourrais tresser un abat-jour avec une structure extérieure. Donc, j'ai démonté une tente quechua. Et j'ai commencé à tresser un abat-jour, enfin à concevoir un tressage entre cet abat-jour standard et la structure d'une tente quechua. Et puis de fil en aiguille, j'ai agrandi la taille de l'objet, j'ai réduit les rubans, j'ai cherché, j'ai bricolé, je découpais. Donc les rubans, c'était du tissu que je découpais. Du coup, je me disais, allez, j'enlève 3 mm. Donc j'enlevais 3 mm sur 80 rubans. Etc. Je me souviens, c'était la nuit, j'étais à l'école. Et puis à un moment donné, je l'ai montée, je l'ai sur une poulie. Et puis elle a vrillé parce qu'elle était trop tendue. Et voilà, c'est comme ça qu'est née la lampe Vertigo. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah ouais, ça m'a fait quand même un effet assez fort de délicatesse et de mouvement en fait.
Ouais.
Et moi, j'avais déjà, dans mes tout premiers projets, j'avais fait un projet sur un cadre qui roulait. J'avais perçu que le mouvement était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'avais fait aussi un rocking chair et j'avais perçu que le mouvement était quelque chose qui était essentiel pour moi. Aujourd'hui, ça me semble évident, mais à l'époque, en fait, vous savez, parfois on fait des choses et en fait, ce sont ces choses qui vous définissent. Vous n'avez pas toujours une idée préconçue au moment où vous cherchez. Vous cherchez vous-même quand vous êtes créateur. Et donc, à un moment donné, bah, on fait plein de choses et puis là, on se dit, mais en fait, j'ai mis mon intuition là-dedans et ça a donné ça. Et puis, vous commencez à comprendre et à construire autour de ça et vous dire, bah, en fait, le mouvement est commun à tous mes objets, bah, ça jette les bases un peu de la création future. Et c'est vrai que cette lampe, bon, ben, sur le moment, c'était un accident. Enfin, c'est à la fois un accident et pas un accident, parce que c'est le résultat d'une recherche itérative où je me disais plus grand, moins fin, etc. Mais il y a aussi, bah, c'est souvent comme ça en fait, on fait un truc en terre, moi je fais de la terre, je fais de la céramique, je fais des choses, et puis d'un coup, en faisant une modification ou une petite chose, je me dis, tiens, il y a ça aussi, puis là je vais dans cette direction. C'est de la recherche itérative. Et donc c'est né comme ça.
Donc cette lampe, cette suspension, maintenant c'est un best-seller. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez quand vous êtes en train de travailler sur un best-seller? Est-ce que vous avez comme une intuition? Vous savez que ça va marcher? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez comme une sorte de pression? Est-ce qu'on attend de vous que vous créiez des best-sellers aujourd'hui?
Alors ça, c'est... Il y a parfois des blaireaux sur les réseaux qui disent, oh là là, elle a une grosse pression, comme si elle avait fait un premier hit, vous savez,
Oui.
comme un chanteur qui a fait une chanson qui marche bien et après, du coup, il se cherche pendant des années. Bon, évidemment, je crois que tout le monde a envie de faire un best-seller à chaque fois qu'il lève le crayon. Moi, je suis dans la construction d'un travail, dans la recherche permanente. Je ne me dis pas à chaque fois ça va être un best-seller. Évidemment, je
Alors vous, peut-être pas, mais peut-être que les marques, en venant vous chercher, elles se disent quelque chose signé Constance Guisset va être un best-seller.
Alors, moi, je pense que la signature, évidemment, il y a quelques signatures qui font des best-sellers, de par leur signature. Moi, les fois où on m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, c'est pas vrai. Vous achetez un objet si vous en avez envie. Évidemment, l'effet de mode, l'effet de marque, etc. peut fonctionner, mais il faut avoir quand même atteint une certaine notoriété que je ne pense pas avoir encore atteinte. Et franchement, moi, vous ne me ferez jamais acheter un truc que j'aime pas parce qu'il est signé de machin. En vrai, qu'est-ce qui fait que vous achetez un objet? C'est tout à coup, vous avez ce regard, vous avez cette compréhension du volume qui peut ou pas correspondre à un besoin, mais qui en tout cas correspond à un désir. Et là, vous avez ce moment où vous l'évaluez et vous dites oui, en fait, ça remplit ça, ça fait ça, ça crée cette sensation. Et en fait, là, ça devient effectivement un objet de désir, en fait. Et évidemment, j'espère toujours que mes objets vont fonctionner, qu'ils vont plaire, et surtout qu'ils vont plaire dans la vie avec. Parfois, des personnes me disent « Ah, on a vu beaucoup Vertigo, etc. » Mais la question que je pose toujours, mais est-ce que vous êtes heureux de vivre avec cet objet? Et je crois que la plus belle réponse qu'on peut me faire, c'est quand j'ai fait un bout d'intérieur ou une étagère pour quelqu'un, parce que je fais parfois comme ça pour des amis, et qui me disent « Mais en fait, ton intervention minimale a changé complètement ma perception de vie à l'intérieur de ça. » Et moi, j'essaye de défendre vraiment l'idée d'un design ou d'une conception empathique, en fait. Je suis toujours obsédée par la sensation que les objets vont procurer. Et je me dis, voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme d'attraction, parfois par le mouvement induit, par un alanguissement des formes, par une présence, une finesse, une légèreté. Et c'est ça que j'essaye à chaque fois de faire. Parfois l'humour aussi. Et puis la surprise, ce sont des ressorts que j'aime bien. Enfin, j'aime bien arriver jusqu'au moment où moi-même je suis encore surprise par l'objet. Voilà, on crée une sensation. Et parfois l'objet, quand il arrive réellement, m'étonne par sa présence. On met une telle énergie en fait à faire les choses que quand elles arrivent, on en a oublié en fait que ça allait être ça. Ça m'est arrivé aussi pour mon exposition l'année dernière aux arts décoratifs. J'ai mis une énergie mais folle à faire en sorte que l'expo soit accessible, soit amusante, soit facile d'accès pour les enfants comme pour les adultes. Et j'étais dans l'obsession du détail jusqu'au bout, en fait. Et quand j'ai visité l'exposition, quand elle a été terminée, j'ai ressenti ce que j'avais essayé de faire pendant ces mois de préparation. Et j'ai vu que les premiers visiteurs avaient la banane. Vraiment, j'ai vu ça, j'ai vu un espèce de bien-être, plaisir, etc. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je cherchais, mais j'avais oublié que je l'avais cherché et j'avais tout fait pour ça, mais j'en avais oublié presque le but premier. Et du coup, je suis surprise moi-même par l'objet qui m'a complètement échappé. Je veux dire, la lampe Vertigo, aujourd'hui, j'ai oublié que c'était moi qui l'avais faite. Je vous raconte l'histoire, bon, mais ça me semble super loin, en fait. Je veux dire, quand elle est chez quelqu'un, ma seule préoccupation, c'est, bon, d'abord, est-ce qu'elle est bien accrochée? Est-ce qu'elle n'est pas à l'envers, par exemple, ce qui arrive souvent? Ou est-ce qu'elle n'est pas trop près du plafond et du coup, elle a l'air d'être comme un animal attrapé dans un filet, parce que cette sensation voilà, d'emprisonnement me dérange, mais sinon, est-ce qu'elle est... Ça, je pense à ça, mais j'ai oublié que c'était moi, en fait. C'est la lampe des gens, enfin. Et l'objet, bah, quand il est sorti, bah, c'est comme un enfant qui est sorti, bah, c'est plus vous, en fait. C'est bien sûr, c'est votre création, mais c'est plus vous du tout. Et du coup, moi, je suis amusée par les objets en tant que tels, parce que j'ai mis une grosse énergie à les faire. Je me suis dit, ça, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. J'ai pris... Franchement, des centaines de petites décisions, ou parfois des milliers de petites décisions sur un objet. Et puis quand il arrive, je me dis... Alors parfois, je suis un peu déçue, mais... Et du coup, je me dis, il faut qu'on corrige les choses. Mais ben, il m'a échappé, et du coup, il a sa présence à lui tout seul. Enfin, j'espère.
Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous nourrit?
Alors, je dirais franchement tout. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup visiter les musées, j'aime beaucoup visiter les zoos. Donc, je suis évidemment... très inspirée par la vie des gens, quoi, par les comportements, mais aussi par la nature, par les sensations. Mais parfois, je trouve autant de choses dans un gadget qui m'amuse que dans une œuvre qui m'émeut, quoi. Je pense que tout ça fait un tout, et c'est cette espèce d'équilibre entre une forme de... pas de classicisme, mais bon... J'aime bien emmener ailleurs, en fait, quand je fais un objet. J'aime bien qu'il nous fasse voyager. Et en même temps, j'aime bien qu'on puisse vivre avec. Et en même temps, qu'il soit différent parce qu'il nous... Enfin, qu'il nous emporte parce qu'il est un peu différent. Mais en même temps, qu'on puisse vivre avec. Donc, il y a un espèce de mélange de... je sais pas, peut-être un petit peu d'humour quand même, j'espère, dans certains de mes projets. Oui, un désir de mouvement, donc évidemment le mouvement et la légèreté sont assez souvent en lien. Quelque chose d'assez graphique, d'une présence et en même temps d'une discrétion un peu classique. Enfin, je sais pas, j'essaye de trouver des équilibres et en fait ce sont ces équilibres qui, à mon avis, donnent vie aux objets. Et c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'abstraction et la figuration. Moi j'aime bien l'abstraction. Parce que je trouve que c'est plus évocateur et j'aime pas trop la figuration, mais on est toujours un tout petit peu sur le fil où tout à coup on évoque mais on ne figure pas, et c'est vrai que moi j'aime bien l'évocation en fait. Je pense que c'est ce que les gens relient à l'idée de la poésie en fait, comment avec quelques mots on arrive à évoquer un univers, et là c'est comment avec quelques lignes ou quelques matériaux on arrive à évoquer un imaginaire, et donc c'est peut-être ça qui fait que on le décrit avec des mots comme la poésie. Je n'ai pas pensé à la poésie quand je l'avais faite, mais en revanche, je pense beaucoup à l'évocation.
Alors, maintenant qu'on a bien compris tout ce que vous faisiez, je vais revenir au tout début, parce que vous avez un parcours qui est original, qu'on ne peut pas ne pas évoquer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivé à faire tout ça ?
Alors, c'est vrai que je n'ai pas un parcours classique de designer, on va dire. En fait, j'ai toujours aimé fabriquer des choses avec mes mains. Donc, je vous le disais, j'avais une machine à bois, un siège en tournée quand j'avais 11 ans. Enfin, j'ai toujours bricolé. On m'appelait Madame Tipex à l'école. Donc, vraiment, je bricolais toute la journée pendant les cours. Enfin, j'écoutais pas toujours beaucoup les cours. J'étais un peu dissipée, on va dire. Bref, une fois qu'on s'est dit ça. Et puis à un moment donné, je crois que je me suis dit, tiens, je voudrais être chirurgien, parce que je cherchais un métier qui était à la fois manuel et intellectuel. Et je voyais bien la réparation, la bidouille. En fait, vous savez, quand on lit par exemple le lambeau, on voit bien que y a un processus aussi itératif. On cherche, on essaie de réparer, on essaie de construire, etc. On n'y arrive pas toujours. Et en fait, c'est un peu comme mon métier. Très souvent, j'y arrive pas. Et puis en fait, je réessaye, j'essaie de trouver des nouvelles façons. Alors, c'est pas toujours aussi. Tout n'est pas toujours comme ça, hein, mais. Je comprends encore aujourd'hui pourquoi j'aurais voulu faire ce métier. Je crois que j'aimerais toujours le faire, en fait. Donc, après, j'adore le mien, donc je ne changerai pas. Mais c'était assez fort comme désir. Puis, je ne sais pas, je ne suis pas du tout dans un milieu médical. Et puis, on s'est dit que ça allait être très long comme étude. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ah tiens, je serais bien ébéniste. Et puis, bon, on s'est dit, bon, pourquoi pas faire des études. Et j'étais pas trop mauvaise en classe et mes parents m'ont dit écoute, lance-toi quand même plutôt dans d'autres études avant de changer. Puis j'ai passé mon bac assez tôt, donc ça me semblait assez logique de continuer. Donc j'ai fait une prépa générale parce que en fait j'aimais bien plein de matières, j'adorais les maths, j'adorais les langues, j'adorais le français, bon voilà. Et du coup j'ai fait une prépa HEC et j'ai fait du coup l'ESSEC, donc une école de commerce. Quand j'étais à l'ESSEC, j'ai coché la case apprendre le japonais sur un papier qu'on vous envoie avant de s'inscrire. Et donc j'ai fait des stages au Japon, un premier, puis un deuxième où j'étais j'étais au poste d'expansion économique à Tokyo, et un deuxième où j'étais assistante parlementaire d'un député japonais. Et en fait je me suis dit, j'adorerais voyager tout le temps, et du coup j'aimerais bien être conseiller culturel. Et donc je me dis, conseiller culturel, il faut que je fasse Sciences Po, il faut que j'essaye le Quai d'Orsay. Et puis, je suis revenue du Japon, de ma deuxième expérience du Japon, où j'avais fait. Enfin, c'était assez amusant, j'ai vécu des choses assez amusantes. Mais j'avais plus du tout envie de travailler, j'avais plus du tout. Donc, je suis rentrée à Sciences Po, j'avais passé Sciences Po avant, j'étais en service public, et là, je me suis dit, non, mais en fait, reprendre des concours et tout. Enfin, le fait d'avoir décroché pendant un an des études m'avait fait penser que j'avais plus du tout envie de faire ça. Et du coup, je suis passée en gestion culturelle à Sciences Po, en me disant, ouais, quand même la culture, enfin, la création, tout ça. Et pendant que j'étais à Sciences Po, je faisais de la menuiserie un jour par semaine, je faisais de la calligraphie, de la sculpture le soir, enfin du modelage. Bon, j'ai toujours continué à avoir une activité un peu comme ça. Et puis, je suis diplômée de Sciences Po, je me mets à travailler dans une galerie, et là, ça a été très clair. Là, je me suis dit, je ne veux pas travailler dans un bureau. Toute la liberté que j'avais pu avoir avant, quand j'étais étudiante, où je pouvais faire de la calligraphie, faire du sport, faire du machin, etc., tout à coup, s'effondrait. J'étais enfermée dans un bureau, assise sur une chaise, et là je me suis dit, non mais en fait, impossible. Vraiment, c'était une réaction quasi physique à la chose, et je me suis dit, mais en fait, j'aime la création, mais en fait, j'ai envie d'en faire. Et donc là, quand même, énorme doute, parce que j'avais pas cette formation, etc. Je vous dis, je me suis interrogée de savoir si je voulais être artiste ou designer, et le fait que j'ai toujours aimé la technique m'a fait pencher pour le design. Donc là, je me souviens, j'étais déjà avec la personne qui est devenue mon mari, et je lui ai dit, bon, écoute, je crois que j'ai envie d'être créateur. Et il m'a dit, écoute, c'est le métier le plus difficile du monde, la création, mais je te soutiendrai, donc fais ce que tu veux. Et je lui ai dit, bah, c'est quoi une bonne école de design? Et dans mon immense prétention, je lui ai dit, écoute, moi, je ne vais pas postuler à toutes les écoles, je voudrais voir si l'école pense que j'ai un potentiel, j'irai, mais si je préfère encadrer des créateurs plutôt que d'être un créateur qui n'y arrive pas et qui, du coup, je veux pas être frustré dans mon travail, quoi. Je veux pas sentir ça. Et il m'a dit, bah écoute, l'ENSI, c'est bien parce que c'est une école qui s'ouvre à des profils différents, etc. Donc, je suis allée visiter l'ENSI, où ils m'ont dit, il faut vous sortir de toutes vos obligations professionnelles. Et en fait, j'ai un peu menti, parce que j'ai quand même postulé chez les Bouroulec, où j'étais leur administratrice pendant 7 ans, et j'étais en parallèle de l'ENSI. Donc, pendant quelques années, personne ne le savait. Et puis, un jour, mon prof croise Ronan Bouroulec et lui dit... Et Renan lui dit, alors ça se passe comment avec Constance? Et mon prof, du coup, me dit, bon, voilà. Il m'a dit, écoute, tant que tu fais ce que tu fais, j'irai pas le dire. Et voilà. Et donc j'ai énormément travaillé parce que de fait, c'est une école qu'on fait plutôt à plein temps. Et donc moi, j'étais à mi-temps, sauf que personne ne le savait, donc je manquillais un autre boulot à côté. Et j'ai travaillé beaucoup la nuit, le jour, etc. Et voilà. Mais je pense que le fait que j'ai travaillé chez eux m'a beaucoup appris sur le regard, l'exigence, la façon dont ça fonctionne. Et au moment où j'étais diplômée de l'école, en fait, là, je suis restée encore chez eux un petit peu, puis je me suis lancée après.
Mais est-ce que vos études, plutôt de commerce notamment, vos diplômes, vous êtes dans votre métier actuel ou ça vous semble très loin, un autre monde?
Alors, en fait, ça me semble extrêmement loin. Je pense que les moments où ça m'aide, ce sont d'abord, un, la réminiscence de la prépa. Parce que du coup, je suis une très grosse travailleuse et je peux me concentrer très fortement, très vite. J'avais appris là-bas à passer d'une matière à l'autre. Et du coup, pour pas m'ennuyer et puis pour pas m'épuiser, dès que je sentais que je ralentissais sur un truc, je change. Et en fait, ça correspond à ma façon de penser et ça correspond à ma façon de travailler ici aujourd'hui. C'est-à-dire que je change tout le temps de projet. Et du coup, voilà, j'ai cette espèce de rythme qui fait que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est des réminiscences de prépa qui sont très fortes. Ensuite, c'est vrai que bon, moi je viens d'un milieu d'entrepreneur, donc pour moi l'entreprise, monter sa boîte, c'était pas impensable, c'était même assez naturel et c'est même très logique, quoi. Mais c'est vrai que bon, est-ce que j'ai appris tout ça là-bas, je sais pas. En revanche, j'ai appris, je pense, à écrire, ça m'a quand même encouragée à lire plein de choses, écrire plein de choses, que ce soit à l'ESSEC ou Sciences Po, très clairement. Et puis j'ai quand même des notions de comptabilité, de gestion.
Oui.
Bon, qui font que je ne suis pas perdue quand je regarde un bilan.
Et vous avez jamais, vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc je crois que j'ai déjà ma réponse, jamais regretté ce changement de voie.
Non.
Et financièrement, avec de telles études, vous auriez eu un poste très confortable. J'imagine que quand on est créateur, c'est un peu moins facile.
Ah oui, je pense que c'est pas comparable. En fait, avec le temps, parfois, j'y pense. Je me dis, bon, c'est vrai que là, j'aimerais bien gagner plein de sous et avoir un super endroit. Enfin, voilà, je vois bien la différence. Et en même temps, mais...
Vous aimez tellement votre métier
Oui,
que...
puis ce que ça veut dire... En fait, moi, au moment où j'ai changé de voie, il y a un truc qui m'a frappée, c'est le changement de regard sur le monde, en fait. Je me suis dit, tiens, c'est amusant, maintenant, je m'autorise encore plus à regarder. Et vraiment, ça m'a frappée. Tout à coup, c'est comme si tout ce que je regardais avant, mais... Je regardais sans prendre conscience ou sans analyser. Tout à coup, mon regard sur le monde avait changé parce qu'il fallait que je rattrape et que je me dise, bon, tiens, comment c'est fabriqué, comment c'est fait, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça fait de l'effet, pourquoi, etc. Et mon regard sur le monde vraiment a changé sur la compréhension de ce qui fait, ce qui marche pas, etc. Et donc, je suis évidemment en analyse perpétuelle aujourd'hui. Et ça, ce regard-là, mais quelle chance! Et puis, les personnes avec lesquelles je travaille, ce désir, cet amusement, ce plaisir. Moi, je ris beaucoup, beaucoup, toute la journée. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, à l'agence, tout le monde pourra vous le dire. Quand on leur demande ma caractéristique principale, ils disent espiègle. Je suis quelqu'un qui. Voilà, je suis vraiment enthousiaste. Je pense que je suis vraiment heureuse dans ce que je fais.
On en parlait tout à l'heure, il y a eu toute une rétrospective de votre travail aux Arts décoratifs de Paris. Vous aviez seulement 40 ans, ça fait quoi? Vous étiez fière, gênée peut-être, honorée, quand on vous a proposé en fait.
En fait, quand on m'a proposé de faire l'exposition, j'étais vraiment super heureuse, super excitée, un petit peu inquiète aussi.
Mais parce que comment on trouve le recul pour mettre en scène son propre travail?
Alors, La particularité quand même de cette exposition, c'est qu'elle venait après deux autres expositions, même trois. Une première à Montigny-lès-Metz, où je m'étais un tout petit peu exercée à ça. Une seconde, enfin, j'avais déjà fait une exposition sur mon travail à les Calvériennes à Mayenne en 2012. Mais bon, là, on parle vraiment d'une séquence très proche, où je suis à Montigny-lès-Metz, du coup, je rassemble des pièces ensemble. Mais surtout, j'avais été invitée par le MUDEC à Lausanne, et donc celle de Montigny venait juste se greffer juste avant. Donc c'est vraiment, ça s'articulait autour du MUDEC. Où là, j'avais conçu une exposition en deux parties. D'un côté, c'est un appartement tout noir et blanc, et de l'autre côté, les mêmes objets en couleur. Et ça, c'était vraiment mon point de départ sur la perception de la couleur, du genre à travers la couleur, à travers les assemblages, etc. La question du genre est quelque chose qui m'intéresse évidemment énormément. Et je voulais démontrer en fait que ce qu'on disait est un design féminin, en réalité, quand tout était noir et blanc, on dit non, vraiment autre chose. Si vous prenez mes tables en cara pour matière grise, je veux dire, elles sont en noir, on dirait des fusées, et puis elles sont en rose, on dirait des jupes. Et en fait, l'apport de la couleur donne une influence. Alors c'est vrai que moi j'aime la couleur, je suis assez libérée dans les couleurs. Bon bah du coup, on imagine un monde un peu amusant, enfantin ou féminin en tout cas. Et en fait, je pense que c'est pas du tout ça qui prédomine. Moi, quand je dessine un objet, il est toujours en noir et blanc. La couleur ne m'intéresse pas avant que l'objet soit terminé. Tous les rendus sont en noir et blanc. Et donc ça, je voulais le montrer en fait. Je voulais vraiment montrer que le changement de couleur changeait la perception de l'objet. Et donc ça, c'était cette expo MUDEC. À cette occasion, j'ai fait un livre en fait, qui était un moment très important pour moi parce que c'est les premiers textes que j'ai écrits vraiment sur mon travail. Avant, je faisais des petits textes sur les objets, mais là, c'était pas du tout pareil. Donc sur les thèmes qui étaient importants, le rond, la couleur, le genre, l'impermanence, l'abstraction. Suite à cette expo du MUDEC, est arrivée une autre proposition d'exposition qui était aussi assez amusante, et vous allez comprendre pourquoi je viens à l'expo des Arts Déco après. C'était au Musée Fabre à Montpellier. Là, j'étais dans un hôtel particulier, Sabatier d'Espéran, 18e, je devais mettre mes objets en regard avec les objets du lieu. On dit toujours ça quand on est dans les expositions, on dit toujours, on fait dialoguer les objets. Et je me suis dit, tiens, si on les faisait dialoguer pour de vrai. Et donc j'ai demandé à trois acolytes, Chloé Pithiaud, Adrien Goethe et Frédéric Dassas, de travailler avec moi autour de ces dialogues entre objets. Et donc on a fait comme une exposition spectacle. Donc ça c'est quelque chose qui est un gros mot hein, pour les conservateurs. Mon mari est conservateur de musée et bon, je veux dire, il sait très bien que je l'assume et ça nous amuse beaucoup. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne plaît pas toujours. Et moi, je me suis dit, je vais assumer ça, en fait. Je fais des objets grand public, je fais une exposition qui, aussi, accueille les enfants. Et du coup, on est dans une logique de spectacle, où en faisant parler les objets, très simplement, on arrive à les intéresser à l'histoire, à la fabrication, etc., des objets. Et donc, on a fait ça au Musée Fabre. Et puis, Olivier Gabec, donc, qui s'occupe du Musée des Arts Décoratifs, vient voir cette exposition. Je crois que c'est au MUDEC qu'il y avait pensé. Je ne sais plus laquelle, enfin bon, bref, une des deux, ou peut-être les deux, il a vu les deux. Et il me dit, Constance, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose dans les collections des arts décoratifs, peut-être des dialogues comme tu as fait au Musée Fabre. Et puis, vous savez comment c'est la vie, hein. C'est toujours plein de surprises. Et puis, en fait, il y a l'espèce de grand espace qui était à côté, qui s'est libéré. Et là, parce que l'expo s'est annulée. Et donc, cette exposition qui devait être d'abord dans les collections, s'est trouvé dans les collections, plus avec cet espace. Et donc là, tout à coup, c'est devenu vraiment quelque chose de encore plus grand. Au début, ça devait être une exposition déjà géniale au Musée des Arts Décoratifs. J'étais vraiment ravie, etc. Et là, tout à coup, il y avait en plus le moyen de faire autre chose. Et donc là, vraiment, là, je me suis dit, il faut être au rendez-vous. Donc je me suis dit, idéalement, ce serait mieux dans 5 ans, j'aurai plus de choses, etc. Je serai plus mûre. Et puis je me suis dit, le train ne repasse pas deux fois, donc faut y aller. Et donc, j'ai conçu l'expo comme ça. Et je l'ai conçu vraiment dans une énergie. On s'est vraiment défoncé sur cette exposition, sur ce projet. Pendant quelques mois, c'était très, très gros à porter parce que on a beaucoup travaillé avec Olivier Gabet. J'ai écrit les textes de l'expo, la scénographie de l'exposition. On s'est débrouillé sur plein de choses. Et c'est vrai que c'était très excitant. Alors, quand on est pris dans le projet, on ne prend pas le recul et on ne se dit pas « Tiens, mon Dieu, j'ai 40 ans, j'ai cette expo. » Mais c'est vrai que ça m'a fait un effet très fort quand les premiers visiteurs sont rentrés. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais émue par leur réaction. Mais surtout, je trouvais que c'était très intime, en fait. C'est comme si ça m'avait déjà fait le coup avec le livre du MUDEC. Mais là, vraiment, j'avais l'impression que de dévoiler énormément de choses de moi. Il y a une salle, notamment, que tout le bureau appelait ma chambre, qui était en fait la salle avec la lampe en lévitation. Et où il y avait un grand collage où je levais un peu le voile sur ce qui pouvait m'animer. Donc j'avais fait un très grand collage pour montrer que tout venait d'un peu tout. Donc il y avait un peu de littérature, un petit peu de d'art, plein de choses différentes en fait, des choses amusantes, des choses moins amusantes. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était... J'avais l'impression que les gens pénétraient dans mon univers. C'était vraiment ça, c'est la sensation qui était la plus étrange. Et puis en fait, je me suis habituée à ça. Et puis voilà. Mais c'est vrai que, ouais, c'est tout à coup, vous avez quelques milliers de personnes qui rentrent chez vous, quoi. Mais qui rentrent plus que chez vous, qui rentrent dans ce que vous voulez dire vraiment. C'est-à-dire, vous avez un chez vous qui dit des choses de vous, mais là, tout à coup, c'est. Je crois qu'il faut toujours faire la différence entre la personne et sa création. Mais la création dit parfois beaucoup plus de choses sur la personne que la personne dans sa vie tous les jours. Et donc là, tout à coup, je disais pourquoi je faisais les choses et ce que j'y voyais. Et j'avais écrit ces textes et je devais les assumer et j'étais là. Ouais. Et voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était fort. Ouais.
Vous parlez de chez vous, justement. Est-ce que vos créations sont chez vous ?
J'en ai quelques-unes parce que c'est pratique, en fait. longtemps, j'en ai pas eu. Et puis, parfois, j'en ai moins. Parfois, j'en ai... les cordonniers sont parfois un peu les plus mal chaussés et je me sens un peu cordonnier.
C'est comment chez vous, vous me diriez ? Vous êtes quel style déco ?
Il y a des objets, ça c'est vrai. C'est les objets qui font le lieu, je pense. Il y a assez peu de décoration au sens propre. Mais
vous avez une palette de couleurs, par exemple ?
Alors, c'est assez amusant parce que ça c'est un truc qui est très drôle. En fait, chez moi, à Paris, j'ai une palette de couleurs... assez noir et blanc, je dirais, avec des choses assez... Un peu comme ici, vous voyez, avec un cabinet de curiosité, un peu astronomie, etc. Donc c'est comme ça, un peu chez moi, avec des objets, un peu cabinet de curiosité aussi. Et on a une petite maison à la mer, où là, il y a vraiment plus mon autre palette de couleurs, qui est des camaïeux de plein de couleurs différentes, avec...
Quelle couleur, justement ?
Et ben du coup, je pense que je vais du bleu au jaune en passant par le vert. J'aime bien travailler comme ça en palette et j'aime bien changer les rideaux, en fait, qu'aucun rideau soit de la même couleur. Donc j'aime bien faire ça et c'est vrai que c'est comme ça chez moi.
Vous qui mettez un peu de fantaisie dans vos projets, dans la vie, comment on pimpe sa déco ? Qu'est-ce qui peut apporter un petit effet waouh dans une pièce ?
C'est vrai que moi j'aime bien ajouter toujours des objets.
C'est l'objet qui apporte cette fantaisie.
Oui, alors pas tout. Enfin, d'abord vous avez, faut être pragmatique en fait. Vous avez quoi comme capacité d'expression dans une salle ? Donc, vous avez des murs, vous avez un plafond, vous avez un sol et vous avez vos objets qui sont là-dedans. Donc en fait, parfois il suffit de trouver le bon équilibre et de pimper un de ces éléments. Dire si vous êtes chez vous, vous rentrez chez vous, tout à coup vous peignez votre sol en rose. Bon bah tout à coup. Ça va être très différent. Et puis finalement, vous dites non, je vais installer une espèce d'énorme sculpture lumineuse au plafond. Et là, ça va aussi transformer votre espace. Je pense qu'il y a plein de façons de faire et qui sont, à mon avis, toujours relatives au lieu, en fait. Ce qu'il faut, c'est repérer tout de suite dans le lieu, en fait, ce qui est important, ce qui est intéressant, les angles de vue, les recoins où vous avez envie de vous mettre, tout ça. Enfin, faut être comme un chien qui renifle, en fait. Et vous dites, voilà, j'ai envie de me mettre là, je suis comme un animal... Je sens que la lumière va être belle, va être agréable, etc. Je vais vouloir me dorer au soleil. Ou alors, au contraire, je vais m'isoler dans la petite alcôve. Les aspérités de l'architecture nous donnent beaucoup d'indications sur les lieux. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler en premier. Puis après, ça, on déroule, on articule, on cherche, on trouve des équilibres. Et donc, parfois, on essaye d'être sage à des endroits et complètement fou à d'autres. Parce que si on fait qu'un espace complètement fou, bah, en fait, on a du mal à vivre dedans.
Quel est le projet ou l'objet sur lequel vous aimeriez travailler ?
Alors moi, j'aime bien l'idée qu'un jour, je travaillerai peut-être sur un robot, une machine, voilà, un truc qu'il faut
un
rendre...
Un robot en cuisine ou un robot...
Non, un robot d'accompagnement de vie. Ça, j'aimerais bien ça parce que je trouve qu'il y a une problématique qui est essentielle, qui est celle de... caractère anthropomorphique ou non du robot, est-ce qu'on doit lui ajouter des fonctions anthropomorphes, enfin des ajouts, faire des ajouts anthropomorphes ou au contraire l'éloigner, quel niveau d'abstraction, quel niveau de texture, quel niveau de toucher, quel niveau de sensation, tout ça c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Donc ça j'avoue que c'est un projet, j'aimerais bien être consultée sur un projet comme celui-ci. J'aimerais bien faire un restaurant par exemple, c'est vrai que je fais beaucoup d'espaces publics mais plutôt espaces d'accueil, de vie commune, etc.
Je crois que j'aimerais bien faire un resto, enfin je suis sûre même, j'adorerais ça.
Être l'archi d'un resto ou ouvrir vous-même un resto?
Non, être l'archi d'un resto, ah ouais. Non.
Encore un nouveau métier.
Ah oui, non, ça pour le coup je vois bien que c'est pas le mien. Non pas que j'aime pas cuisiner, mais je pense que c'est vraiment un monde, c'est un métier quoi.
Alors on va terminer avec les questions à What Meal. Ce sont des trois petites questions pas chères payées, vous allez comprendre. Alors question à 1,80€, le prix d'un café que vous avez dû prendre avec les frères Bouroulec qui vous ont donc tendu la main d'une certaine manière quand vous étiez plus jeune. Aujourd'hui, vous aussi, vous êtes connu, reconnu. Est-ce que vous avez gardé de bons rapports?
Oui. En fait, on se croise régulièrement. Moi, j'ai une affection évidemment particulière pour eux. Je suis un peu un ours, donc j'essaie de... Enfin, voilà, je suis un peu prise par mon travail et tout ça, mais... Donc je dîne pas tous les 4 matins avec eux. Mais non, bien sûr, on a gardé de bons rapports.
Question à 12€, le prix d'une heure de soutien scolaire. Est-ce qu'on peut dire une designer? Bon, j'ai posé cette question la semaine dernière à une photographe versus un photographe. Donc on va dire que je me répète, mais j'avais envie de savoir sur le mot designer.
Oui, alors moi, autant effectivement, je suis très attachée à l'idée de l'égalité et je suis une grande défenseuse des femmes dans leur travail. Et autant j'ai sur que ce soit l'écriture inclusive ou le 1-1, je crois que d'autres ont réfléchi à ma place sur la question. Moi, les deux me vont en fait. Si on dit un designer, une designer, oui, enfin, c'est parfait. Enfin, je m'en fiche. Je suis plus gênée quand on associe à l'un ou à l'autre des caractéristiques, et notamment parfois on attend d'une femme créatrice qu'elle soit. Plus attiré par les matières, les couleurs, etc. C'est plus cet a priori-là qui peut m'insupporter que la dénomination de la chose, quoi. C'est l'idée qu'on puisse se dire... C'est pas l'idée que mon design soit féminin ou pas féminin. Bien sûr, je préférais qu'il n'ait pas de logique de genre. Et je pense qu'il n'y a pas de logique de genre dans ce que je fais. Mais très bien, il serait féminin. C'est parfait. Le seul problème, c'est quand ça devient excluant et que tout à coup, on mette ça dans une case en se disant c'est féminin. Est-ce qu'on dit d'un design qui est masculin? Franchement. Et si j'étais un homme... La plupart des personnes diraient que c'est poétique, léger, délicat, sensible. Mais ils n'utiliseraient pas le mot féminin. Et ce seraient les mêmes objets. Et du coup, un designer, une designer. Très bien.
Question à 30€, le prix d'un bouquet de fleurs. Aujourd'hui, on est le 14 février. Alors, pour ou contre la Saint-Valentin?
Ah, moi, je suis pour la fête. Je suis pour la fête. J'ai pas d'état d'âme de c'est ringard, c'est pas ringard, c'est machin. Vraiment, ça... C'est des occasions, oui, je trouve ça, en fait, au fond, je trouve ça un peu ringard et en même temps, mais génial, quoi. Je veux dire, une fête où, une fête de l'amour, mais enfin, franchement,
allons-y
comme plein de choses. Je veux dire, oui, je peux trouver ça un peu ringard, mais au même temps, ça m'amuse, quoi. Je veux dire, je vais pas en faire un plat, mais je crois que toute occasion de fêter l'amour, le plaisir et le fait d'être vivant, c'est quand même, faut la saisir, quoi.
Merci Constance.
Merci Hortense. Peut-être à bientôt.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.